J'ai l'honneur donc d'assurer, juste d'introduire en fait la dernière séance de ce colloque passionnant et sportif. Et avec une séance sur le queer. Alors, je vais rappeler juste très très brièvement quelque chose qui constitue à l'heure actuelle ce qui est en passe de constituer un lieu commun ou une espèce de ritournelle. Alors, c'est la définition même du terme queer. Donc, le terme queer, c'est un terme importé des États-Unis qui, au départ, signifie louche, bizarre, et qui a été utilisé comme une insulte homophobe qui pourrait correspondre à pédale, tapette. Et qui a été progressivement, on s'est réapproprié, ce terme a été réapproprié par la communauté gay pour en faire un terme sur lequel pouvait se développer une politique de fierté. Et donc, c'est une espèce de processus relativement familier qui consiste à retourner le contenu infamant d'une insulte pour le rendre, en faire un porte-drapeau et un instrument de fierté. Je dis que c'est une ritournelle et que c'est très connu parce que finalement c'est quelque peu embêtant. Enfin, ça constitue une certaine, ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que ça rend autonome le queer, alors même que ce qui pourrait à la fois se reconnaître sur le terme de théorie et politique queer, s'inscrit dans une histoire longue, une histoire minoritaire, une histoire contestataire, qui a à voir avec, évidemment, l'histoire de la communauté gay et lesbienne, avec le mouvement féministe. Et c'est donc cette généalogie-là que je vais essayer de vous présenter ce soir, sans prétendre qu'il s'agit de la généalogie du queer, mais que c'est une de ces généalogies possibles. La première chose, c'est que queer, en l'occurrence, s'était utilisé évidemment dans les années 40, dans les milieux gays new-yorkais notamment, pour désigner les PD plutôt bourgeois, plutôt respectables, plutôt blancs, contre d'autres vocables, notamment les vocables plus excentriques, qu'étaient la fée, la tante, la folle. Ou aussi le PD marin ultra viril, le PD soldat, etc. Or, ces représentations ou ces corps hein, PD qui étaient un peu exotiques, un peu extravagants, etc., ils étaient plutôt portés par le milieu PD populaire new-yorkais. Et c'est donc dans un souci de respectabilité que queer est apparu d'abord. Alors, c'est évidemment une histoire assez que je vous résume à grands traits, hein, mais c'est pour ça que ce que j'ai choisi de vous montrer d'abord, pour introduire après mon tout petit exposé, c'est un extrait du film Paris is Burning, qui est un film de 1991. On va en voir des extraits de 7 minutes, mais vous allez voir ce qui apparaît d'emblée. Si vous voulez, ça se passe dans le milieu des bals de travestis. C'est en fait les bals de travestis ont toujours existé dans les années 40, 50 à New York. Et là, c'est dans une nouvelle vogue dans ces bals qui est portée précisément par les milieux afro-américains et latinos et qui est le voguing, une nouvelle forme, un nouveau style. Et donc voilà, c'est cet extrait. Si on peut passer le premier que je vais vous montrer. Je suis désolée, c'est très frustrant ces extraits. Mais pour Paris is Burning, il y avait beaucoup de difficultés pour avoir les droits et diffuser le film dans son entier ou avec des passages beaucoup plus longs. Donc juste ces quelques minutes me permettent d'attirer votre attention sur deux, trois éléments que je voudrais un tout petit peu développer. La première chose, c'est évidemment. Vous voyez dans les premières scènes, ce qui nous apparaît, nous, enfin, ce qui peut nous apparaître, nous, public, là, comme ça, le prenant en plein visage, c'est premièrement, les premières scènes, c'est de belles fées, c'est très extravagant. Et deuxièmement, c'est que des Afro-Américains ou des Latinos. Et ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment, là, ce qui devient vraiment le film emblématique du queer, c'est précisément de montrer que les normes de genre, elles sont, on peut les faire varier, on peut les rendre floues, les déstabiliser à partir d'une position où on est déjà censé incarner des normes de genre minoritaires parce que des normes de genre liées à une appartenance racisée, enfin une classe, ou à une appartenance dite ethnique. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est probablement parce que, d'une certaine façon, le latino ou l'afro-américain, en tant que ne représente pas, n'incarne pas parfaitement les stigmates de la virilité telle qu'elle est appréhendée, de la virilité dominante, qu'ils peuvent faire jouer, là, le genre de façon fluctuante. Ils ont, d'une certaine façon, plus de marge de manœuvre pour faire ça. Alors, l'idée, c'est de dire que c'est d'abord dans une certaine culture populaire PD qu'on a pu faire vaciller, d'une certaine façon, les normes de genre, et que ça a été possible précisément parce que, dans cette culture, on n'incarnait de toute façon pas, de façon dominante, le genre. La suite de mon propos, c'est évidemment la façon dont, parce que ce qui apparaît sur la scène pour l'instant, c'est effectivement une performance, ce sont des vraies performances, les balls, les balles, c'était vraiment des compétitions de danse, de style codifiées, et on a pour l'instant un premier concept de performance qui est prestation ou performance théâtrale. Mais ce que la dernière scène là, de l'extrait nous montre, c'est que cette performance, en même temps, elle est d'une certaine façon exemplaire. Et c'est ce prof gay afro-américain qui va donner des cours de féminité à des mannequins. À des mannequins qui sont censés être, pour aller très vite, identifiés comme des femmes, des vraies. Sauf que la féminité, elles ne l'ont pas vraiment. Et elles ne l'ont pas naturellement non plus. Et que donc, on doit leur donner des cours. Et la personne qui donne des cours, ce n'est pas madame la femme. Ça peut être tel ou tel corps qui est spécialiste de la performance de genre. Alors, une première appréhension du queer, évidemment, pourrait être ce premier niveau, mais qui donne bien les données du problème. D'abord, on est face au concept de performance. Puis la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas face à du genre pur et dur, ou même la problématique de genre et sexualité. On a d'emblée une question, la généalogie d'une culture populaire et le croisement entre la question du genre, la question des sexualités et la question de la race comme catégorie politique. Qui a la force subversive de faire vaciller ces termes et cet ordre sexuel. Alors sur la performance, évidemment, je vais reprendre quelques éléments et vous montrer comment c'est dans cette généalogie qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie queer s'inscrit. Et pour moi, il y a deux choses, deux filiations à retenir. La première, c'est évidemment cette question du genre, mais auparavant, juste pour vous expliquer comment dans ce queer, il y a aussi une autre filiation qui est celle de l'épistémologie critique. Alors c'est un mot très compliqué au départ, mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. C'est juste l'idée qu'à partir des années 90, on a, dans l'héritage de la pensée de la théorie féministe et des études gays et lesbiennes, on a poussé jusqu'à son paroxysme la dénaturalisation et la désessentialisation de la bicatégorisation sexuée, c'est-à-dire on a dénaturé, interrogé l'idée selon laquelle il existerait que deux sexes et deux sexes seulement. Et quand on parle de sexe, vraiment au sens non seulement évidemment de corps sexué, mais sauf que évidemment dans les années 90, on savait très bien que les organes génitaux externes ne sont pas suffisants pour connaître le sexe de la personne et qu'un certain nombre de critères ont été successivement candidats pour assigner l'identité sexuée. Alors ça a été évidemment à partir de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, à la fois les hormones, les chromosomes. Alors évidemment, vous connaissez XX, XY. Oui, mais enfin, il y a quand même parfois des XX qui ont des organes génitaux externes plutôt masculins, prétendus tels, et des XY qui ont des organes génitaux externes plutôt féminins ou prétendus tels. Et donc, c'est dans faire vaciller cette bicatégorisation sexuée a permis de mettre out, d'une certaine façon, vraiment la question de la nature, du fondement naturel de l'identité du genre. Donc on en est là. Seulement, le genre, il nous restait sur les bras un genre qui reviendrait, une nature par rapport au genre qui reviendrait par la fenêtre. Parce que oui, il y a une multiplicité des conformations sexuées, il y a une multiplicité des corps anatomiques, mais il y a bien un genre, un rapport de genre, et ce genre, il est pensé comme un rapport binaire, antagonique, avec deux termes et deux termes seulement. Or, ça, c'est une façon, ça a été une façon pour toute une partie du milieu intellectuel, féministe, gay, lesbien, une façon de renaturaliser des identités. Et donc, en s'intéressant au genre, ce qu'on a pensé, c'est qu'il fallait également faire attention à ne pas refixer des identités genrées, le féminin, le masculin, ni même des identités sexuelles, l'homosexuel, l'hétérosexuel. Et donc, c'est là mon deuxième point. L'autre inspiration de la théorie de la politique queer, c'est probablement sous l'influence des féministes et lesbiennes afro-américaines, chicana ou sino-américaines, qu'a été interrogé le genre dans ce qu'il avait de plus binaire. Et ce qu'a notamment dit le Black Feminism, c'est que il n'y a pas une acception binaire unique du genre, mais il y a plusieurs modalités des normes de genre selon la classe et la race. Et donc la domination de genre ne s'effectue pas de la même façon selon cette situation sociale. Et par conséquent, cette interrogation a permis de pluraliser les normes de genre et de montrer qu'il y avait une fluctuation, une circulation de ces normes. Donc la dernière chose, et c'est pour anticiper sur Venus Boys, qui est un des films majeurs des années 2000 sur le queer, et qui est aussi un des films phares d'une partie de la communauté lesbienne. Il faut dire qu'avec Venus Boys, c'est précisément non plus cette féminité qui a tellement d'accroches que l'on va venir rendre un peu plus flou, c'est précisément au contraire la masculinité. Et la masculinité, elle est prétendue être lisse, elle est prétendue neutre, sérieuse. Un homme en costume trois pièces, c'est difficile de le parodier. Mais c'est d'autant plus difficile que cet homme en costume trois pièces, il est fort probable, vous l'avez vu dans Paris Burning, qu'il soit bien blanc et qu'il soit, par exemple, plutôt dans la City qu'à Harlem. Donc, ce qu'essaye de faire Venus Boy, c'est toute la performance des drag kings, c'est de montrer que la masculinité est tout autant un travail du corps, elle façonne tout autant le corps et elle se construit tout autant que la féminité et tous ces oripeaux historiques qui ont permis de l'identifier. Alors c'est pour ça que, et ce sera mon dernier point, lorsque l'on parle de performance, il faut bien voir que dans ce qui apparaît de prime abord comme une simple imitation du genre, des normes de genre, comme une simple reproduction de ces normes, même dans un contexte théâtral, je dirais, eh bien, dans ce contexte, d'une certaine façon, on peut dire que ce que l'on imite, ce n'est pas tellement un original ou un modèle qui existerait véritablement, comme s'il existait une véritable pure féminité ou une véritable pure masculinité, puisqu'il n'y a plus de substrat anatomique ou biologique ou naturel, que les normes sociales mêmes, bien qu'elles semblent fonctionner selon la dichotomie, elles sont au contraire plurielles. Hein, les normes de genre sont plurielles selon la classe et selon la situation dans les discriminations racistes. Et que par conséquent, lorsque l'on performe du genre, eh bien on ne fait qu'imiter quelque chose qui est lui-même une imitation, quelque chose qui est lui-même une représentation sans substrat, quelque chose qui fonctionne sur sa reproduction permanente, mais qui n'a pas de modèle absolu. Alors évidemment, la plupart des... C'est notamment Judith Butler qui a développé, à partir de l'exemple des dragues, cette idée de performance de genre. Mais on a la plupart des critiques qui ont été énoncées à l'égard de Butler et de dire « Ah oui, ben, désormais, la domination de genre, c'est trop marrant. Un matin, je décide de me déguiser en folle et c'est cool. Et puis le lendemain, je décide que non, c'est mieux d'avoir un costume trois pièces pour aller au boulot. » En fait, il n'a jamais été question de dire que de minimiser ou de recouvrir ou d'invisibiliser une domination et la dimension violente des normes de genre. Ce que Judith Butler a fait notamment, c'est de dire décortiquer, de déplier le fonctionnement de cette domination. Et à partir du moment où on voyait que ces normes de genre, elles fonctionnaient comme quelque chose qui est violent parce que ça se répète, parce qu'on accepte nous-mêmes de le performer tous les jours, à partir du moment où on comprend ça, eh bien, on donne la possibilité à des pratiques de résistance inédites de se développer. Et ces pratiques de résistance inédites, eh bien, elles vont précisément se concentrer sur le fait d'imiter en déplaçant, d'imiter en rendant flou, en rendant bizarre cette reproduction des normes. Et donc, dans l'imitation la plus parfaite que font les dragues, elles nous donnent la clé des politiques et des pratiques de résistance actuelles et à venir en matière de genre et de sexualité. Alors, c'est dans cette perspective que je voulais notamment présenter Venus Boys maintenant, pour vous montrer aussi dans Venus Boys, d'une part, comment il va être beaucoup plus coûteux, difficile de déconstruire la masculinité, mais aussi de mettre à votre attention que là encore, vous allez voir dans Venus Boys, ce sont encore des afro-américaines ou des latinos qui vont se charger premièrement de cette déstabilisation des normes. Et donc le queer, il y a vraiment, il ne faut pas oublier cette coalition avec la question de la déconstruction des dominations racistes et de la façon dont les normes de genre se modulent selon la classe et la race. Enfin, juste un simple rappel et je finis là-dessus. C'est cette généalogie plutôt américaine mais très rapide évidemment que je vous ai fait, mais il est vrai que pour la France, la théorie queer et notamment toute cet ensemble filmique et iconographique qu'on a des dragues a été porté et publicisé par Marie-Hélène Boursier, et il y a un excellent article d'elle qui s'appelle Le silence des butch dans Sexopolitique, le queer 2. Et donc voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Merci beaucoup. Et on regarde Venus Boys.
Oui, donc Astrid Creux, étudiante en biologie. En fait, j'ai une question très basique à propos de la traduction française. À chaque fois que les personnes utilisent le mot gender, c'est souvent, voire exclusivement traduit par sexe. Je voudrais savoir si vous avez une remarque par rapport à ça. Merci.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'était surtout, je pense que, enfin, je sais pas, peut-être Eric aussi pourra répondre, mais il me semble que la plupart du temps, la traduction était en prenant identité sexuelle ou apparence sexuelle. Enfin, c'était toujours un peu sur l'adjectif qui avait un écart. Et je crois que c'est parce qu'on a du mal. Il y a eu une arrivée du terme de gender en France qui a été longue et fastidieuse et qui est désormais en train d'être très largement utilisée. Mais on a peut-être encore du mal à utiliser le terme comme genré, genrification ou des choses, l' ensemble de tout ce vocable autour des processus genré ou de l'identité genrée, etc. Alors après, c'est ce que très rapidement, juste le deuxième élément de réponse, c'était ce que j'essayais de montrer très très rapidement dans ma présentation. Et dans le film de Venus Boys, vous voyez à la fin, précisément, elle réfléchit à partir de conformations anatomiques bizarres ou étranges, mais qui sont au fond, qui ne représentent que la multiplicité des conformations sexuelles, enfin anatomiques au sens organes génitaux. Là, il y a quelque chose qui fait que on voit l'articulation entre le sexe et genre, enfin comment ça fonctionne toujours dans ce couple qui où chacun des termes est à la fois alors à fonctionner évidemment de façon très normative ensemble, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le genre conforme à son sexe, et puis où à force de les délier, à force de déconstruire leur binarité, l'un et l'autre fonctionnent comme un moteur critique, c'est-à-dire le genre va venir va montrer que le sexe en tant que par exemple que conformation anatomique et au fond ne permet pas de dire il y a deux sexes et deux seuls sexes. Vous voyez, par exemple, à la fin, finalement, c'est clitobite. Comment on fait ? Donc ça, c'est quoi et du coup, les effets genrés, c'est quoi ? Donc, et puis, ce que j'essayais de dire aussi, c'est à partir du moment où on pense, comme l'évoquait Eric aussi hier à propos des travaux de Anne Fausto-Sterling, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a peut-être cinq sexes, ou en tout cas qu'il y a une multiplicité de conformations sexuées au sens d'appareils génitaux. Vous voyez comment ça, à partir de là, eh bien, on peut retravailler sur le genre, c'est-à-dire, pour aller très vite, les effets sociaux, les attributs du masculin et du féminin, et montrer qu'eux-mêmes ne sont pas dans un rapport dichotomique. C'est ce qui était dit dans Venus Box. Il n'y a pas une seule façon d'être masculine ou masculin, ou une seule façon d'être féminine ou féminin. Il y a une multiplicité qui va... Donc voilà, enfin, c'est dans... Mais peut-être que Eric aurait d'autres éléments, certainement.
Juste une phrase là-dessus, mais toute simple, enfin, sur le fait que effectivement, en français, il y a une résistance, une ambivalence par rapport au terme, etc., qui fait que souvent, il y a une difficulté à savoir si on utilise genre ou sexe, etc. Mais à l'inverse, en anglais, il ne faudrait pas imaginer qu'il y ait un usage cohérent. C'est-à-dire qu'en anglais aussi, très souvent, les gens utilisent le mot genre à tort et à travers, entre autres parce que le mot genre s'est imposé de telle sorte que, en gros, genre finit par plus vouloir dire grand-chose, et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quelqu'un qui a joué un rôle fondamental dans la théorisation du genre, qui est John Scott, a un regard beaucoup plus critique dès la fin des années 90 en disant, au fond, on l'utilise tellement à tort et à travers qu'il n'est pas sûr, alors qu'elle a écrit un livre qui insiste sur le fait que c'est une catégorie utile, et bien, elle se dit, est-ce que c'est encore utile ? Donc, en fait, ça dépend. Donc, les difficultés côté français ne doivent pas cacher les difficultés côté anglophone.
Une ou deux dernières questions, parce qu'il va falloir qu'on termine.
Qu'on aille se coucher.
Bon, eh bien...
Non.
Damien Bright, étudiant à Sciences Po. Vous aviez parlé à propos de Judith Butler dans votre présentation d'une possibilité, des formes de contestation politique par rapport à cette nécessité vu la violence justement des normes du genre. Avec Venus Boys, on a vu un film très social, très personnel. Et j'aimerais juste savoir si vous pouviez parler justement de cette contestation politique qui s'ensuit, etc.
Ok, très bonne question.
En 3 minutes, Elsa ?
Oui, en 3 minutes. Alors, ce que j'ai essayé justement dans la présentation, encore une fois, très rapide, d'avoir... parce qu'en français, on dit queer, mais en fait, il n'y a pas... théorie ou pensée ou politique queer, en fait. Et effectivement, alors en termes de politique queer, déjà, historiquement, il y a eu ce groupe qui a représenté le retour, de l'émergence des questions de la politique, de l'utilisation du queer comme stratégie politique, et Queer Nation, et qui a été... dans les années 80-90, un réseau d'ailleurs très actif. Et l'idée, c'était vraiment une contestation à la fois à l'encontre du milieu féministe et du milieu gay, qui visait à dire, avec le genre, avec les identités sexuées, avec le genre ou avec l'opposition entre homosexualité et hétérosexualité, d'une certaine façon... vous renaturalisez des identités qui, au fond, ne sont jamais, il n'est jamais possible de les subsumer sous deux catégories ou sous deux pôles opposés. Et donc, c'est dans cette volonté de rendre floues ces identités ou ces principes d'identification. Et donc, les implications politiques, ça signifie que les identités politiques ne sont pas un préalable à la lutte ou à la contestation politique. C'est-à-dire que être femme n'est pas un préalable, par exemple, à la politique, au féminisme. De même, être catégorisé comme homosexuel n'est pas un préalable pour lutter dans une perspective de la politique, enfin, d'une démarche, d'une politique gay. Et l'idée, c'est que dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez une pluralité de normes, de catégories, d'identités possibles, eh bien, l'identité politique à partir de laquelle on lutte, elle est toujours en devenir. Elle se construit dans les mouvements. Et ce qui signifie que c'est ce qu'on voyait un petit peu tout à l'heure avec certaines positions évoquées durant la table ronde, c'est qu'il y a des possibilités de coalition. C'est un terme qui a été utilisé beaucoup par Haraway et puis ensuite qui est une grande question de Judith Butler, de dire parce que les identités politiques, l'identité n'est pas un préalable à la lutte politique, mais au contraire, c'est dans la lutte politique que se fondent des identités. Eh bien, on peut avoir des coalitions avec précisément des personnes, des corps qui, a priori, ne rentrent pas sous la catégorie de femmes. Et on peut lutter avec ces corps ou avec ces. Et puis, la deuxième chose qui était politiquement les implications politiques tout à fait intéressantes, c'était l'idée selon laquelle que queer a été réinvesti politiquement de la même façon que. Sur le même pied, de la même façon que par exemple gens de couleur. L'idée, l'expression, notamment évidemment aux États-Unis, de gens de couleur, ça, c'était vraiment une façon de lutter contre des identités à la fois infamantes et qui, même lorsqu'elles étaient retournées pour en faire des identités fières, par exemple, pour aller très vite, noir, l'exemple de ou nigger, eh ben, c'était l'idée aussi que à partir de cette identité, elle m'enferme aussi. Je peux lutter avec, mais d'une certaine façon, elle m'enferme sur une certaine problématique, certaines perspectives politiques. Alors que, par exemple, l'idée de s'identifier comme genre de couleur, ça veut dire que même quelqu'un qui est à ce point métisse qu'on va plus voir. Qu'au fond, il est aussi héritier de cette histoire des discriminations racistes, eh bien, cette personne, vous voyez, qui est floue dans ces catégories, elle est aussi inclue là-dedans. Donc l'idée de la politique queer, c'est une idée fondamentalement et foncièrement de politique inclusive, où les coalitions se font sur des principes politiques et non sur des identités fixes.
Merci. Je pense qu'on va terminer là-dessus.
Peut-être, Eric, tu veux venir conclure ? Non. D'accord, merci beaucoup. Donc, Donc au nom d'Eric Fassin et de moi-même, merci infiniment d'avoir suivi ces deux jours de colloque. Merci à Isabelle encore une fois. Et voilà, à très bientôt pour le second volet en janvier 2007.
Oui, merci. Merci à tous les intervenants de ce colloque sur ces deux journées. Merci à Elsa Dorlin et Eric Fassin. Merci aux techniciens aussi. Et encore merci à Maxime Goguet. Et donc, je vous rappelle que les débats seront, tout le colloque sera retransmis, vous pourrez l'écouter sur le site bpi.fr, dans la rubrique ressources documentaires, archives des débats, dans un délai d'environ 3-4 semaines, avant une éventuelle publication papier ou en ligne. Merci.